Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. J'y avais toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Il est possible de se rendre compte d'emblée à qui ou à quoi on a affaire dès la présentation. Le nom qu'une assemblée locale porte en tant qu'Église, ainsi d'ailleurs que celui de ses membres, doit être biblique. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question des Églises du Christ. Ces assemblées étaient individuellement appelées l'Église, comme par exemple en Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 28. Le mari est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans la première épître adressée par Paul aux Corinthiens, l'Église est nommée Église de Dieu. En fait, Paul adresse cette épître à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, de même qu'il recommande aux Romains de saluer Prisca et Aquilas, et aussi l'Église qui est dans leur maison. En Hébreux 12, 23, le même apôtre parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, faisant ainsi allusion à la nouvelle naissance par le baptême. Enfin, Paul écrit à Timothée, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire à la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Il est étrange de constater que malgré les nombreux termes décrivant l'Église du Seigneur dans le Nouveau Testament, il n'en est aucune parmi les centaines de sectes déchirant le christianisme pour vouloir porter le même nom ou vouloir être désigné par un terme biblique. Trouverait-elle cela déshonorant ou au contraire, ne veulent-elles pas blasphémer en se faisant passer pour ce qu'elles ne représentent pas? Parlons maintenant des noms que portaient au premier siècle les membres de l'Église du Seigneur. La Bible cite à trois reprises le nom de chrétien. En Actes 11, 26, nous pouvons lire que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En Actes 26, 28, le roi Agrippa, quelque peu secoué par ce qu'il vient de s'entendre dire par Paul, s'écrie : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ensuite, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, l'apôtre dit : Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si vous me demandiez à l'instant même quelle est mon obédience religieuse, je vous répondrais, je suis chrétien. Non pas une sorte particulière de chrétien, non. Rien de plus et rien de moins qu'un chrétien. Je suis un chrétien à part entière, autrement dit, un disciple de Jésus-Christ et de personne d'autre. D'ailleurs, les Écritures parlent-elles d'un autre genre de chrétien? Non, n'est-ce pas? Saviez-vous que la Bible nous montre l'exemple de gens qui furent condamnés pour avoir porté un autre nom que celui du Seigneur? La première épître aux Corinthiens accuse en ces termes. Chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'est comme si Paul venait de lancer un cri d'indignation. Chez vous, Christ est-il donc déchiré, lacéré, divisé? L'argumentation de l'apôtre est simple. Jésus est mort pour eux. Et c'est en lui qu'ils ont été baptisés en son nom. Par conséquent, ils doivent être chrétiens, porter le nom de leur sauveur et aucun autre. Certains affirmaient, je suis de Paul. Cela revenait à dire, un chrétien paulinien. Absolument pas, rétorque Paul. Je n'ai pas été crucifié pour vous et vous n'avez nullement été baptisé en mon nom. Il est donc impossible que vous soyez un paulinien. L'Église que Jésus a fondée porte ses propres marques d'identification dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que c'est à Jérusalem qu'elle fut établie. Par conséquent, toute Église située en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis ou ailleurs ne peut être celle du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'Église ne connaissait ni synode, ni concile, ni organisation diocésaine. Au contraire, chaque assemblée de chrétiens était autonome, dotée chacune d'une pluralité d'anciens, qui n'avaient d'autorité spirituelle que dans dans l'Église qu'ils avaient choisie. L'idée que l'autorité plénière d'un seul ancien ou évêque sur un ensemble d'assemblées était donc exclue. Les noms portés tant par l'Église que par les chrétiens ont également fait l'objet de notre attention. Le culte que les premiers chrétiens rendaient à leur Dieu se caractérisait par une spontanéité, une sincérité et une ferveur qui se révèlent presque à chaque page du livre des Actes, des Épîtres et même de l'Apocalypse. Cette adoration profonde venait droit du cœur, et c'est l'impression qui se dégage dès qu'on aborde cette partie de la Bible. Une des choses que l'homme a perdues au cours des siècles est précisément cette profondeur d'adoration envers son Dieu. Dans l'Église primitive, le culte se conformait strictement aux paroles de Jésus à la femme samaritaine. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce culte est donc simple, totalement dénué de faste, de pompe, d'ostentation, et personne ne lutte pour atteindre un niveau mystique abstrait. Rien ne fait appel à une satisfaction matérielle, mais chacun, au contraire, cherche à élever son âme vers Dieu dans un élan soutenu de sincérité, d'amour. Il n'y a pas, dans le culte chrétien, d'encens, d'orgue, de chœur, d'habits sacerdotaux. Bref, rien qui puisse flatter l'œil, l'ouïe, ou encore dramatiser, créer une cérémonie religieuse. Aucun des chrétiens ne représente plus qu'un autre, ni n'agit comme s'il était nanti de fonctions ou de pouvoirs spéciaux. Les gens qui viennent adorer Dieu sont là pour s'offrir, louer leur Dieu, et non pas pour faire de la religion. Les lieux de réunion vont d'une simple pièce d'habitation à n'importe quel lieu propice à se trouver ensemble. L'atmosphère générale est respectueuse, calme, recueillie. Le Seigneur avait dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il est là, bien présent. Et chacun en est conscient. Le culte répond assez bien. Un poème cité par Georges Fiske dans son ouvrage « Redécouverte du culte ». Qu'est-ce que le culte? C'est l'âme cherchant sa contrepartie. Le champ assoiffé pleurant l'eau. La chandelle dont s'approche l'allumeur. Le goutte en tête de l'océan. Un homme qui, au sein d'une tornade, tente de percevoir la voix douce et tranquille. La bouche hurlant au secours dans la nuit. Une brebis perdue dans l'immensité d'un monde implorant le secours du bon berger. Le fils prodigue se jetant dans les bras de son père. Une âme paralysée de terreur devant le mystère de l'univers. Un poète transporté par la beauté d'un lever du soleil. L'ouvrier s'arrêtant un moment pour écouter un flot de musique. Un cœur affamé cherchant l'amour. Le temps s'écoulant vers l'éternité. Adorer Dieu, c'est faire fondre son minuscule soi-même dans l'universel lui-même de Dieu. C'est tout cela le culte. Une grande partie de l'humanité a, hélas, perdu ce sens tout naturel de l'adoration pour se créer à la fois un autre Dieu et pour lui rendre un culte conforme à ses aspirations, à son sens du décorum, à ses envies. Hélas, le livre des Actes décrit à maintes reprises l'adoration des premiers chrétiens, comme par exemple au chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans le 20e chapitre, nous pouvons lire, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, Paul leur dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et aux Corinthiens, il ajoute, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il découle de cet enseignement que le culte dominical du peuple de Dieu au premier siècle consistait à premièrement, participer au repas du Seigneur, ou scène, comme Jésus l'avait ordonné, c'est-à-dire en mémoire de moi. Deuxièmement, chanter les louanges de Dieu de tout leur cœur. Troisièmement, prier ensemble d'une manière suivie. Quatrièmement, donner à Dieu avec libéralité et d'une manière entièrement consentie. Et qu'il leur avait lui-même permis d'avoir. Cinquièmement, étudier la divine parole de Dieu enseignée dans la Bible. La beauté de ce culte dépouillé de tout élément cérémoniel et matériel aussi était premièrement conforme à la volonté même de Dieu et deuxièmement d'une simplicité permettant vraiment d'avoir à chacun la possibilité d'adorer en esprit et en vérité. Quel contraste avec le rituel, le cérémoniel, le déploiement des fastes de certaines églises prétendant adorer l'Éternel de cette manière-là. Par ailleurs, le culte de ces gens venait droit des cœurs purs dont les motivations étaient propres, comme leur vie. Dieu accepte notre adoration du dimanche si elle s'accorde avec ce que nous pratiquons le lundi. Il n'est pas possible d'être buveur, adultère, menteur ou voleur le samedi non plus, pour ensuite le dimanche aller rendre un culte à Dieu. Nous déployons tous nos efforts pour obéir au Seigneur Jésus en toutes choses, en croyant qu'il s'agit là de choses nécessaires, importantes, vitales même. Il faut bien entendu vivre une existence morale, mais de plus, accepter l'enseignement de la Bible. C'est cette doctrine que nous croyons, prêchons et pratiquons, comme l'exprime si bien l'apôtre Jean. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, et le Fils. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement j'entends car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, par la suprême, le Seigneur même, il est amour, je le dirai toujours.